Bonjour, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, nous voilà dans le studio de notre chère radio consacrée aujourd'hui donc à l'histoire, l'art et l'iconographie chrétienne. Et nous allons parler d'une nouvelle exposition du Centre international du vitrail consacrée aux vitraux de la Renaissance à Chartres. Et j'ai le grand plaisir de recevoir dans le studio l'une des deux historiens. Il y avait deux qui ont travaillé sur ces panneaux qui ont été confiés au Centre international du vitrail pour une restauration et une mise en présentation au musée. J'ai donc Françoise Gatouya avec moi, qui est ingénieure de recherche à la direction du patrimoine et au titre du ministère de la Culture, responsable de 1974 de tous les vitraux anciens. Donc c'est elle et Guy-Michel Leproux, directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris, qui a eu la tâche, la mission d'examiner ces vitraux, fortement endommagés par les guerres de religion, on l'a dit dans une précédente émission, souffert beaucoup sous la Révolution lorsqu'on les a démontés, au moment où on va détruire certaines églises, on va les mettre en vente, on va les couper, les réadapter à d'autres ouvertures, dans l'église Saint-Pierre à un moment donné. Et maintenant, grâce à vous, on redécouvre tous ces thèmes qui sont représentés dans ces verrières, alors que parfois on n'a que quelques débris de verrières, quelques petits panneaux, et votre grande connaissance du vitrail vous a permis d'identifier justement ces thèmes qui étaient mis en valeur au XVIe siècle. Alors, l'émission va s'appeler « Le vitrail chartrain de la Renaissance, une école de vitrail, ses maîtres et ses techniques ». Alors, une école de vitrail, comment est-ce qu'on peut définir cette école de vitrail à Chartres ?
Alors, il est certain qu'il y avait des peintres verriers en grand nombre à Chartres, pas seulement au XIIIe siècle, mais plus tard aussi, puisque Maurice Justelin a publié en 1931 les archives qui donnaient une cinquantaine de noms. Malheureusement, une œuvre associée à ces noms, il n'y en a qu'une seule, qui est la verrière de Saint-Michel, qui d'ailleurs sert d'affiche à l'exposition dont on parlait à l'instant.
Donc c'est Jean Jouan.
C'est ce Jean Jouan. Qui est documenté précisément. On en parle dans les archives de Chartres à partir de 1530. Et on sait qu'il meurt en 1548, puisque à la fin de l'année 1548, puisque c'est une année où on lui avait commandé un vitrail de la Transfiguration pour Saint-Hilaire, et il n'a pas le temps de le finir lui-même. On lui avait demandé d'ailleurs d'en faire les cartons, ce qui est très important, parce que on sait que les cartons ou les projets de vitraux ne sont pas toujours dus aux peintres verriers. Mais là, on lui demande de faire les cartons, d'après un modèle qu'on lui a montré. C'est-à-dire qu'on lui a montré un petit dessin qui était de quelqu'un d'autre, et puis il était supposé faire ses cartons. Et ensuite, un nouveau marché est passé par un de ses confrères, parce que lui est mort entre-temps, à Noël 48, et c'est le confrère qui va réaliser la verrière qui a disparu.
Donc, alors, le carton, il faut peut-être expliquer que le carton est le dessin grandeur nature.
Exactement.
Qui sert de modèle pour la réalisation d'une verrière.
Voilà, la réalisation d'une verrière se fait guidée par un dessin très très précis, et ce dessin très précis, plus on peut reconnaître justement la main de certains peintres qui sont des artistes dont on connaît d'autres œuvres, à travers... Là, vraiment, c'est un des sujets qui intéresse les chercheurs depuis une bonne quinzaine d'années, je dirais, même peut-être un peu plus, mais sur lesquels on a vraiment avancé beaucoup et on a des résultats. C'est-à-dire que vraiment, la réalisation est guidée à tel point par le modèle qui sur lequel on s'appuie qu'on peut reconnaître justement le style de peintre à travers ce qu'a produit le peintre verrier, même quand le peintre verrier est excellent.
Donc une grande harmonie, une grande unité dans la création, malgré cette division du travail.
Ça peut être une division du travail, ça peut ne pas être aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir, puisque là on voit que ce Jean Jouan, il était en même temps peintre, puisqu'il faisait les cartons pour ce cas précis de la Transfiguration. Mais dans le cas, en revanche, des verrières, ou en tout cas d'une des verrières conservées à Saint-Aignan, et dans le cas de ce que nous lui attribuons aussi dans les panneaux exposés provenant de Saint-Pierre, il a eu affaire à un autre cartonnier qui est Jean Cousin. Et Jean Cousin, c'est la grande vedette
dans le monde du vitrail, la Renaissance.
Ah bah pas seulement dans le monde du vitrail, c'est le pourvoyeur de modèles pour toutes sortes d'œuvres d'art. C'est quelqu'un qui fait des dessins. On aura d'ailleurs une exposition sans doute au Louvre en 2013, je crois, sur Jean Cousin, où on verra toutes les implications de ce... C'est le designer, c'est le Philip Stark de cette époque-là, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va faire les modèles de tapisserie, les modèles pour les miniatures, des miniatures, des tableaux, mais aussi des choses dont il donnait le tracé et que des spécialistes de chacune de ces techniques pouvait imiter. Il n'est pas du tout certain que Jean Cousin ait jamais peint sur le verre. On pense même le contraire.
Et il habitait à Chartres ? Est-ce qu'il est de passage ?
Il habitait à Paris, mais il a justement, semble-t-il, des liens. Guy-Michel Leproux a travaillé sur les sculptures qui avaient été commandées pour la clôture du chœur de Chartres en 1542 à François Marchand et s'est rendu compte que François Marchand demande les modèles de ces sculptures, de deux des scènes, le massacre des innocents et la présentation au temple, à Jean Cousin, justement. Et semble-t-il, il y avait... En plus, c'est une chose qu'il a réussi à trouver grâce à ses dépouillements d'archives au minutier central parisien, des notaires parisiens très réguliers. Il a vu qu'il y avait des connexions certainement entre les familles de Jean Jouan et les descendants de Jean Jouan en tout cas, et la famille de Jean Cousin. Parce qu'il y a un Jouan qui est un peintre établi à Paris un petit peu plus tard, après le milieu du XVIe siècle, si ma mémoire est bonne, et qui devient sa fille, je crois, devient la marraine d'une fille de Jean Cousin. Enfin, il y a des relations familiales, et certainement, sans dire que Jean Cousin avait des attaches chartraines, en tout cas, il a des réseaux de commanditaires et d'artistes qui sont en relation avec lui, donc, qui sont là.
Et par ces relations, Chartres se trouve donc au cœur d'une production verrière à la Renaissance, profitant de toutes les techniques les plus avancées. Et les panneaux au Centre international vitrail que vous avez examinés montrent que cette école du vitrail, ou ces artistes installés ici, ou de passage, était en possession, en pleine possession de tous ces moyens artistiques et techniques pour représenter force détail sur le. Ben vous parliez de 50 artistes recensés par M. Justin. Est-ce que
qu'il a trouvé
sur quelle période différents... Est-ce qu'on a une idée de la période
qui s'est Je crois qu'en fait, il déborde un peu sur le début du XVIIe siècle, puisqu'il parle de ce Jean Vacher dont on a trouvé une œuvre. Là encore, c'était une chose intéressante. Mais dans les compléments qui ont été faits de la Genèse à Saint-Aignan, il y a un beau panneau qui représente Adam et Ève. Bon. Un peu lourd dans le style du XVIIe siècle, et au-dessus il y avait des chiffres qui jusque-là avaient été plus ou moins lus 1556. En réalité, il y a le nom de Jean Vacher dont on ne savait pas si c'était commanditaire ou pas, mais on peut mettre ça en relation avec le Jean Vacher que notre Juscelin a désigné comme peintre verrier, deuxième du nom d'ailleurs, et qui procède à la restauration de cette verrière plus ancienne.
Oh.
Chère Françoise Gatouya, nous parlons du vitrail à Chartrain de la Renaissance et beaucoup de visiteurs de la cathédrale ou du Centre international vitrail nous posent la question, est-ce que les artistes signaient leurs œuvres? Nous parlions à l'instant même des artistes qui ont œuvré à Chartres, il y a une riche production de vitraux à cette époque-là. Est-ce qu'on peut identifier ces artistes grâce à des documents seulement ou est-ce qu'ils ont laissé quelques petites traces sur les panneaux qui vous ont aidé à vous mettre sur la piste, à retrouver ou à donner peut-être un nom à tel artiste qui a œuvré pour tel ou tel autre vitrail.
La situation idéale, c'est quand on a à la fois un document et une marque quelconque, mais ça n'arrive pratiquement jamais. Enfin,
donc au XVIe siècle les artistes n'ont pas l'habitude de signer.
Il y en a qui le font. Mmh. En Grand Le Prince, par exemple, de Beauvais, qui est, semble-t-il, une grande...
Le grand artiste.
Une grande vedette, qui a eu un tel rayonnement qu'on l'a appelé justement à Rouen pour faire certaines verrières. Donc il y a des œuvres de lui, non seulement à Beauvais, en Picardie, mais aussi en Normandie. Et c'est vrai qu'il fait des choses très très caractérisées et que justement il laisse souvent des petites marques de ses initiales ou des choses comme ça. Et plusieurs membres de sa famille, après lui, le font aussi. Mais c'est assez rare.
Et dans l'exposition du Centre international vitrail, il y a quelques panneaux qui montrent la fuite de la Sainte Famille. Et il ne reste que les pieds de l'âne, de Saint-Joseph, de Marie et deux anges qui accompagnent la Sainte Famille dans sa fuite. Pensez peut-être qu'il y a un petit élément qui pourrait nous renseigner sur l'auteur de la verrière.
Ces panneaux-là, alors évidemment, comme on n'a plus les pieds, c'est assez difficile de les attribuer, mais en revanche, ça appartient au même cycle que la circoncision, qui, elle, est beaucoup plus complète et que Michel Leproux a pu attribuer très très fermement à Jean Cousin, enfin donner le carton à Jean Cousin. Et vraisemblablement, le reste du cycle aussi. Et entre les pattes de l'âne et les jambes de Saint-Joseph, en tête du cortège, on voit d'ailleurs sur le sol deux petites pierres plates posées l'une sur l'autre. Et ça, c'est une des marques que Jean Cousin emploie très très volontiers dans beaucoup beaucoup de ses œuvres, à la fois les dessins, les projets qu'il faisait certainement, les gravures qui en sont tirées. Et souvent, il mettait son nom dessus. Alors là, on n'a pas le nom, mais on a en tout cas les petites pierres qui se trouvent là, et en les voyant, on s'est dit, tiens.
Il y avait peut-être
de la grisaille qui a disparu. Non, pas forcément. Non, justement, il y a un vitrail qui a été fait d'après un carton de Jean Cousin par Jean Chastelain, qui était un très grand artiste parisien, enfin le meilleur peintre verrier des années 1520 à 1540, et qui a été fait pour le château de Fleurigny. On en parle d'ailleurs dans l'ouvrage parce qu'il y a beaucoup de comparaisons, il y a des comparaisons à faire entre certains personnage de cette verrière qui devait être magnifique à Chartres et la verrière du château de Fleurigny, donc qui est parfaitement conservée et qui elle est plus ancienne, 1532, mais où Cousin n'a dû donner que le petit modèle. Et Chastelain s'est débrouillé autrement pour agrandir. Et les deux pierres plates existent, mais on dirait une espèce de sandwich parce que c'est mal compris. Alors que là, c'est quand même
c'est
très,
à l'échelle
très proche,
et ça vous rappelle donc là ça serait
de ce qu'on voit vraiment sur les dessins de Cousin.
Ça serait une réelle découverte effectivement de se dire que Jean Cousin, cette grande célébrité du vitrail de la Renaissance,
découverte qui est due. Alors quelles sont les caractéristiques et c'est très bien démontré d'ailleurs dans le livre grâce à la
le livre dont vous parlez,
on nous a autorisé à reproduire
le catalogue édité par le Centre international vitrail, ouvrage qui recueille donc les textes de Françoise Gatouya et Guy-Michel Leproux, les deux historiens qui ont travaillé sur les vitraux de la Renaissance exposés au Centre international vitrail. Magnifique ouvrage qui montre les vitraux toujours en place à l'église Saint-Aignan à Chartres, les vitraux qui exposés actuellement au Centre international vitrail, mais qui étaient auparavant rognés, et pour pouvoir être placés dans les verrières du Triforium de Saint-Pierre. Donc ouvrage qui est pour tout amateur du vitrail, et en plus pour les amateurs du vitrail de la Renaissance, incontournable, puisque là, vous avez fait un recensement qui nous manquait, effectivement, pour la description des verrières de Saint-Aignan, et évidemment aussi pour ces verrières que vous allez découvrir, chers auditeurs, au Centre international du vitrail. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'école de vitrail à Chartres, ou l'école de vitrail à la Renaissance, peut-être en plus général?
Alors, nous, voilà, on est un peu réticents à la notion d'école, si vous voulez, d'autant que là, on a vu qu'on avait affaire à Chartres à un milieu très ouvert. En regardant justement ce qui reste de l'histoire de Saint-Denis à Saint-Aignan, on voit que certainement il y avait des dessins qui ont circulé entre Bourges, qui a une verrière à peu près de même date dans une de ses chapelles, et Chartres. Alors c'est pas du tout le même style, c'est pas fait pareil. La verrière de Bourges est conservée entièrement et d'une façon tout à fait bon. Là, on a trois scènes seulement à Saint-Aignan, et il y en a 12 ou 16, je crois, à Bourges. Donc bon, mais malgré tout, on voit que il y a des dessins en commun. Il y a une façon de représenter Saint-Denis en prison, par exemple, qui est quand même une chose tout à fait extraordinaire, avec les grilles au premier plan. Comme si c'était un caméraman qui venait de l'extérieur et qui regarde.
Donc, première caractéristique, dans la mise
prison.
En image du thème.
J'ai jamais vu ça ailleurs. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de vies de Saint-Denis non plus représentées. Mais enfin, il y a 1000 représentations de saints en prison qui ne sont jamais montrées comme ça. Saint-Jean-Baptiste, par exemple, qui se trouve en prison avant d'être décapité, mais jamais on le représente comme ça. Donc là, il y avait certainement déjà des dessins qui circulaient entre les ateliers d'un endroit à l'autre, parce que c'est certainement chartrain quand même, cette verrière ici.
Peut-être les techniques utilisées ou...
Alors, les techniques utilisées servent bien à caractériser justement ce qui était à la mode ici, à Chartres. Il y a en particulier le goût pour une peinture rousse qu'on appelle la sanguine et qui est très très utilisée de façon extrêmement récurrente ici à partir de 1500 voire un petit peu avant, et on s'en sert pour réchauffer les carnations, pour faire des hachures, et on en voit beaucoup beaucoup sur les vitraux d'ici. Il y a des restes d'une annonciation qui se trouve dans l'exposition, enfin qui était remontée donc dans Saint-Pierre, qui moi me faisait penser à vraiment un schéma très parisien qui est utilisé aussi en Normandie, mais enfin qui sont des cartons qu'on suit déjà depuis les années 1480 dans le milieu parisien. Et j'ai proposé que ça pouvait ressembler. Puis, en fait, cette peinture nous a dissuadé de faire ce rapprochement, parce que là, on est ailleurs, on n'est pas dans l'exportation de vitraux parisiens. En revanche, il y a eu une exportation, semble-t-il, parisienne, une importation si on se place du côté chartrain, parce que dans la chapelle axiale de l'église Saint-Aignan, alors on a un pauvre panneau qui en subsiste, mais il y avait certainement deux verrières à propos théologique un petit peu sophistiquées, qui avaient été placées de part et d'autre et qui avaient été certainement commandées à ce Jean Chastelain, justement, dont je viens de parler, qui a fait la verrière du château de Fleurigny, mais qui a fait également beaucoup, beaucoup de choses qu'on conserve à
Paris. Donc une riche production du vitrail, des maîtres de l'art du vitrail, avec Jean Cousin,
avec Jean Cousin,
Courtois.
Alors ce Pierre Courtois, qui est vraisemblablement un hébroïcien, quelqu'un qui vient d'Évreux, et dont le fils, semble-t-il, s'installe à La Ferté-Bernard, à la faveur sans doute du chantier que ces gens qui étaient localisés à Évreux dans les années 1470 ont obtenu. Peut-être pas une circulation des ateliers, parce que c'est une structure lourde, mais une circulation...
Donc ils sont installés sur place.
On est installé sur place en principe, mais si on voit qu'il y a une ville où se construit un édifice qui peut rapporter du travail pour un certain temps, ça peut motiver justement que Robert Courtois, fils de Pierre Courtois, soit installé comme citoyen de La Ferté-Bernard en 1498. On en a la preuve à ce moment-là.
Une petite pause.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once
Entretien avec Françoise Gatouilla sur le vitrail de la Renaissance à Chartres. Nous avons parlé de certaines caractéristiques qui ont permis de cerner un peu la manière dont travaillaient les artistes à Chartres, dont les œuvres, certes partielles et lacunaires, sont aujourd'hui exposées au Centre international vitrail en raison des destructions au moment de la Révolution française. Nous avons abordé certains noms des maîtres de cette production de vitrail. Qu'en est-il de Robert Pinaigrier, que l'on cite parfois en rapport avec l'église Saint-Hilaire.
Il fallait bien que je pose fantasme, cette question. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a choisi de faire une espèce de petite mise au point avant d'aborder la recherche plus monographique sur ces vitraux.
Donc, dans le catalogue, vous allez parler de Robert Pinaigrier, auquel on attribue les vitraux de Saint-Hilaire.
Les vitraux de l'ancienne église Saint-Hilaire, mythe ou réalité, avons-nous titré, puisque depuis l'ouvrage de Pierre Levieille, qui est le premier historien du vitrail en France en tout cas, et qui écrit en réalité en 1766 et qui est publié après sa mort en 1772. Son livre paraît 2 ans après sa mort, en 1774. Et lui compile en fait des informations que lui fournissent à la fois des livres qu'il a chez lui, mais que lui fournissent également des correspondants locaux. Donc vraisemblablement, il a écrit à quelques savants chartrains qui lui a fourni des informations. Et puis comme il mélange ça avec ce que raconte dans son histoire de Paris l'historien Sauval, où il y avait des histoires de Pinaigrier rapportées, puisque c'était les auteurs début du XVIIe siècle des vitraux du charnier de Saint-Paul, enfin il y a des choses très très précises qui se rapportent à ce nom-là, et... il y avait sans doute quand même quelqu'un ici qui a nommé Pinaigrier, parce qu'il n'a pas inventé l'histoire de
Saint-Hilaire. C'est une célébrité du vitrail de la Renaissance.
Oui, mais c'est un peu comme Jean Cousin a été une célébrité du vitrail. C'est-à-dire que Jean Cousin, en réalité, a donné des modèles pour les vitraux, pour les tapisseries, pour d'autres choses, comme je vous l'ai dit. Mais c'est certainement, s'il a exercé un petit peu la peinture sur verre, c'est vraiment quand il était tout jeune, et qu'il était encore habitant de la ville de Sens, c'est-à-dire vraisemblablement vers 1520, où il y a là des vitraux où on peut se poser des questions.
Alors effectivement, est-ce que les cartonniers, les personnes ou les artistes, justement, qui vont réaliser donc ces dessins qui serviront de modèle grandeur nature pour la réalisation, que ce soit des tapisseries ou des vitraux, est-ce qu'ils étaient aussi des experts, ou est-ce qu'ils avaient au moins des connaissances, des difficultés d'une mise en image ensuite dans ces matériaux différents? Le vitrail pose un certain nombre de problèmes. On ne peut pas représenter sur un morceau de verre 3-4 couleurs.
Voilà, sauf que là, il y en a quelques
raffinements. Justement, donc il y a... Vous parliez de Jean Cousin, qui a la particularité de montrer des femmes avec des cheveux tressés sur le dos, de montrer le
vêtement en deux tresses.
Voilà, comme
courbe,
une bretzel un peu.
Exactement.
Et on voit donc entre les cheveux un reste ou la couleur du vêtement en dessous. Comment représenter donc à l'intérieur d'un verre jaune le vert d'une robe en dessous?
Il y a une ravissante suivante de la Vierge qui nous montre
que
ça.
Que vous voyez dans l'exposition au Centre international vitrail, parce qu'il faut aller voir.
Alors le personnage effectivement est de dos, la robe est bleu clair, mais la chevelure est délimitée par un plomb
très épais,
Donne
les contours des nattes.
Qui donne surtout, qui appuie le dessin. Et puis les tresses elles-mêmes, pour bien montrer que la robe retransparaît dans la pièce blanche sur laquelle est peinte la tresse au jaune d'argent, eh bien, on lui a pratiqué deux trous, on appelle ça des mises en chef-d'œuvre, pour reprendre la couleur bleu clair de la robe. Et donc, les tresses se trouvent comme ça, entourées de pièces bleues. Et ça demandait quand même un petit tour de force.
Effectivement, c'était l'un des exercices demandés pour accéder à la maîtrise.
Alors, c'était autres. Un des exercices demandés, mais plus on perce comme ça une pièce de verre unique, qui a d'ailleurs déjà une très belle coupe en elle-même, parce qu'elle est assez compliquée.
Autre caractéristique du vitrail de Renaissance, une prouesse, on la découpe des verres, parfois des angles
droits,
et au-delà.
Là, il y a des montages, enfin en tout cas, Jean Jouan fait des choses admirables. Il y a des œuvres plus simplettes aussi, hein. On a justement des images d'évêques qui sont charmantes, mais qui sont très naïves dans Saint-Aignan.
Donc une découpe très savante du verre.
On n'a pas cherché, voilà.
Alors, et ce chef-d'œuvre qui consiste donc à découper dans un
grand
morceau.
Cette mise en chef-d'œuvre qui consiste à incruster des pièces d'une couleur dans une feuille support d'une autre couleur. Donc là, on en a pas mal d'exemples d'ailleurs, parce que il y a pas seulement.
Et c'est absolument étonnant de voir ces chefs-d'œuvre non détruits, qu'il n'y ait pas de plomb de casse supplémentaire.
Parce que quelquefois, c'est relié
qui se
rajoute au pourtour, parce que ça
au
s'est
cours
cassé.
Des siècles.
Mais là, on en a, et on en a également d'ailleurs dans la verrière de Saint-Claude, dans la scène du couronnement de Saint-Claude qui monte sur le trône de l'évêché de Besançon. Il est coiffé d'une mitre qui a aussi des pierreries qui sont montés en chef-d'œuvre, de même que ceux qui le couronnent. Il y en a également dans un panneau qui représente un saint évêque thaumaturge qui est entouré de deux mendiants, qui est exposé également. Enfin bon, on en voit plusieurs exemples.
Donc à la Renaissance, on aurait pu à l'émail peindre peut-être sur un verre blanc ces taches qui représentent la pierre précieuse en bleu, mais on n'aurait
c'est
pas la même luminosité.
Tôt. C'est un petit peu tôt pour faire ça. Les premiers exemples datés des mots se trouvent dans l'église de Montfort-l'Amaury, en fait, où on a des verrières datées avec insistance de 1543, 1542. Et à Paris, il y a une verrière qui est commandée en 1541 et qui est réalisée en 1542 par quelqu'un qui est d'ailleurs Jean Borin, qui sera un grand, grand artiste responsable des vitraux de la Sainte-Chapelle de Vincennes, mais qui utilise, lui, de l'émail déjà en 1542.
Donc
on est certainement un petit peu avant, on est vers 1530 et ça ne se fait pas encore.
Donc à la charnière justement de cette transition vers une révolution de vitrail. Alors chers auditeurs, le temps a passé très vite. Je vous invite à cette exposition au Centre international vitrail, découvrir le vitrail Chartrain de la Renaissance, découvrir les techniques, les thèmes iconographiques, les mises en valeur de certains thèmes qui étaient chers à la Renaissance à l'époque des guerres de religion. Et n'ayez pas peur de ne pas comprendre les savantes explications que vous venez d'entendre, parce que vous allez retrouver un lexique qui accompagne ces panneaux. Donc vous avez et les explications historiques et les explications qui concernent la technique du vitrail ou d'autres termes qui ne nous sont pas forcément toujours très familiers. Merci beaucoup à Françoise Gatouillard, merci à la technique, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, au revoir.